إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، إخوتي في الله وأخوات، ما زلنا نقرأ كتاب شرح كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، بشرح فضيلة الشيخ محمد بن سعيد الرسلان حفظه الله جل جلاله. ووصلنا بحمد الله عز وجل إلى باب من أغلق الباب على الجار، من أغلق الباب على الجار. فقال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام عن ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد أتى علينا زمان، أو قال حين، وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ثم الآن الدينار ودرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب، هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. دونك بحمد الله عز وجل، on poursuit l'explication du livre de l'imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala al-adab al-mufrad, et on est toujours donc dans le grand chapitre concernant les droits du voisinage. Donc ici le chapitre 60 intitulé celui qui ferme sa porte sur le nez de son voisin. Taïeb. Ou plutôt, celui qui ferme la porte au nez de son voisin. Taïeb. Comme dit l'expression yani en français. En arabe, on dit من أغلق الباب على الجار. Fermer la porte au nez au voisin. Taïeb. Donc il dit l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, Malik ibn Ismail nous a rapporté. Il a dit, Abdus Salam nous a rapporté, selon Layth, selon Nafi', selon Ibn Umar, radiyallahu anhuma, il a dit, est certes venu à nous un temps, ou une période, durant laquelle personne n'avait plus de droit sur ses dinars ou son dirham, c'est-à-dire personne n'avait plus de droit sur son argent que son frère musulman. Donc je répète, il a dit Ibn Omar, on vivait, si je traduis dans le sens du hadith, nous vivions dans un temps où personne n'avait plus de droit sur son propre argent que son frère musulman. Puis il dit, ثم الآن, ensuite, maintenant, le dinar et le dirham, yani l'argent, est plus aimé pour chacun d'entre nous que son frère musulman. Puis il a dit, j'ai entendu le prophète, alayhi salatu wassalam, combien de voisins sera attaché à son voisin le jour du jugement. Et il dira, ô mon Seigneur, celui-là a fermé sa porte à mon nez. Yani, il m'a fermé la porte au nez. Et il m'a interdit sa bienfaisance. Et il m'a interdit ou il a refusé d'être bienfaisant envers moi. Allahu Akbar. فهذا الحديث قال الشيخ حسن لغيره الحديث فيه ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف ولكن يقويه ما أخرجه الأصبهاني في الترغيب من طريق أبان عن وطاء عن ابن عمر مرفوعا والحديث حسنه الألباني وأدرجه في السلسلة الصحيحة فهذا حديث ثابت. طيب. Donc le hadith il est on dit qu'il est hasan li ghayrihi. D'accord? Il est hasan donc il est bon li ghayrihi, c'est-à-dire que il est bon car en réunissant toutes les chaînes de transmission qui ont rapporté ce hadith là, on arrive, ou les savants du hadith plutôt, sont arrivés à la conclusion que ce hadith, il est hasan. Il est bon. Car chaque chaîne de transmission se fortifie les unes les autres. Même si à la base, donc le hadith ici, ou la chaîne de transmission évoquée par l'imam al-Bukhari dans ce chapitre-là, cette chaîne-là, elle contient un certain Layth ibn Sulaym, ibn Abi Sulaym, pardon, et qui fait partie des transmetteurs fiables, afwan, faibles, des transmetteurs faibles des hadiths. Mais encore une fois, on a d'autres versions, d'autres chaînes de transmission, notamment celle de Aban, selon Atta, selon Ibn Omar, qui remonte jusqu'au prophète, alayhi salatu wassalam, et qui va donc fortifier, tayyib, toutes les chaînes de narration de ce hadith, comme l'a mentionné notamment l'imam al-Albani, rahimahullahu ta'ala. Na'am. Fa ma'ani al-kalimat. Qawlu al-imami, bab, man aghlaq al-bab ala al-jar, ay dun al-jar. أغلق الباب في وجهه فأغلق الباب على نفسه ومنع معروفه أن يصل إلى جاره حتى وإن طلبه منه يا له من دين لو كان له رجال وما أضع أحكامه على أبنائه وعلى المنتسبين إليه إلا من رحم الله رب العالمين ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم يقول هذا من زمانه فكيف بزماننا نحن. Donc on a traduit alhamdulillah le hadith, et parmi donc les termes du hadith, notamment on a le titre du chapitre de l'imam al-Bukhari, qui a dit le chapitre, celui qui ferme la porte au nez de son voisin. D'accord? C'est-à-dire donc qui ferme la porte au visage de son voisin. Celui qui refuse l'hospitalité et la bienfaisance à son voisin en lui fermant la porte. Hein? Celui qui refuse d'être charitable envers son voisin. Et ce même si son voisin lui demande et le sollicite. Donc non seulement il ne va pas aller de lui-même être généreux ou bienfaisant envers son voisin, mais en plus de ça, même si son voisin se rend chez lui et tape à sa porte, ou sonne à sa porte, ou lui téléphone, il ne répond pas. Il refuse. Il se peut même que, en ouvrant la porte, il voit son voisin et il lui ferme la porte au nez, en voyant que c'est son voisin. Taïeb. Allah al-Musta'an. Donc il dit le shir, hein, dans le sens de sa parole, combien de gens aujourd'hui sont ignorants des règles de la religion, et en l'occurrence ici des règles concernant le voisinage, parmi ceux qui s'affilient à la religion d'Allah Jalla wa Ala, excepté ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait preuve de clémence et de bienveillance envers eux, ceux-là, alhamdoulilah, ils ont réussi à maintenir et à préserver les droits des voisins. Et sinon, combien parmi ceux qui s'affilient à l'islam, qui se disent musulmans, hein, portent atteinte aux droits de son voisin, que ce soit yani, par le bruit, l'odeur, la nuisance sonore, les gênes, que dire alors des insultes, des manques de respect. Que dire alors lorsque le voisin lui demande de l'aide et il refuse pour diverses raisons non légiférées. Puis il dit, et aujourd'hui, le dinar et le dirham, on dira l'euro, est devenu plus aimé pour nous que son frère musulman. Qui est-ce qui a dit, qui est-ce qui a prononcé cette parole-là? C'est Ibn Omar. Hein? Celui qui ramène le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il dit Ibn Omar? Radiallahu anhuma. Il dit, nous vivions à une époque où personne n'était plus en droit de sur son argent que son frère musulman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'époque d'Ibn Omar, à l'époque d'Ibn Omar, radiallahu anhu, l'argent du musulman, c'est comme s'il appartenait autant à son propriétaire qu'à son voisin ou qu'à son frère musulman. C'était pareil. Il disait, le musulman n'avait pas plus de droits sur son argent que son frère musulman. Puis il dit, ensuite, aujourd'hui, l'an, le dinar, le dirham est devenu plus aimé pour nous que notre frère musulman. Alors qu'avant, c'était l'inverse. Les gens, ils aimaient plus leur frère musulman que leur argent. Et aujourd'hui, les gens, ils aiment plus leur argent que leur frère musulman. Mais qui est-ce qui a dit ça? C'est Ibn Omar. Ibn Omar, il est décédé en quelle? Hein? À quelle époque? En quelle année? Il est décédé dans les années 70 de l'Égypte. Ça veut dire qu'il est, il est mort seulement 60 ans à peu près après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a combien d'intervalles entre la mort du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et la mort d'Ibn Omar? 60 ans à peu près environ. Ce qui est peu. Mais malgré ça, qu'est-ce qu'il dit Ibn Omar? Eh bien, maintenant, c'est-à-dire à l'époque d'Ibn Omar, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, maintenant les gens ils aiment plus l'argent que leurs frères musulmans. Qu'est-ce qu'on devrait dire nous alors? Qu'est-ce qu'on devrait dire nous, hein, qui nous nous trouvons voyez, 14 siècles après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eux, ils ont vécu au premier siècle. Nous sommes au 15e siècle de l'Égypte. Qu'est-ce qu'on devrait dire, nous? Subhanallah. فَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ أَوَّلًا فِي الْحَدِيثِ تَأْكِيدٌ عَظِيمٌ عَلَى رِعَايَةِ حَقِّ الْجَارِ. Qu'est-ce qu'on tire du hadith? Premièrement, l'affirmation, le soulignement ou l'insistance importante sur la préservation du droit du voisin. Sur la préservation du droit du voisin. Hein, cela, on le trouve dans la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Combien de voisins sera attaché à son voisin le jour de la résurrection et il dira à Allah, ô Seigneur, celui-là, il m'a fermé sa porte au nez et il m'a refusé son bien ou sa bienfaisance. Subhanallah. Thaniyan, al-hathu ala muwasatihi wa injar, li'annahu sababun lil-i'tilaf wal-ittisal wal-tahabub. والتحابب والتوادد بين الجار والجار. Deuxièmement, نعم, on a dans ce hadith l'incitation à réconforter son voisin. Et même s'il est injuste, même s'il est injuste, si tu vois que ton voisin qui est injuste envers toi, a besoin d'être réconforté, d'être soutenu, d'être consolé, d'être aidé, tu dois le réconforter. Car il reste ton voisin. Et ceci est une cause de fraternité, d'affection, d'amour, d'amitié entre les voisins. Voyez ? Et ça, c'est une chose que l'on doit pratiquer toute l'année. Et pas seulement comme ils font les kuffars, le jour de la fête des voisins. Hein? Un jour dans l'année, ils vont faire, alors qu'ils ne se calculent pas, durant toute l'année, ils ne se calculent jamais. Et la fête du voisin, ils font comme si. Il se peut que le lendemain de la fête du voisin, eh bien, ils retournent à leurs disputes et leurs querelles. Là, le musulman, il doit se comporter comme tel toute l'année. Thalithan, bayan hal as-sahaba radi Allahu anhum min al-muhajirin wal ansar ma'a ikhwanihim al-muslimin 'umuman wa ma'a al-jiran wal ashab khususan. Wa dhalika annahu lamma qadima al-muhajirun 'ala al-ansar lam yakun lil-muhajirin durun wa laysa lahum amwalun. تصدى الأنصار للمهاجرين وأعطوهم من ديارهم وأسكنوهم وأعطوهم من أموالهم وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار يجعل الأنصاري أخا للمهاجري فكان ما يرى أحدهم أنه أحق بماله من أخيه فيقضي حاجته قبل أن يقضي حاجة نفسه ثم بعد ذلك طال الزمن وأحب الناس الأموال ولكنها مهما كان من حب منهم للمال فإن القرون المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الخير فيها كثير لذا شهد النبي عليه الصلاة والسلام لها بالخيرية وشهادته من معجزاته حيث أخبر عن مستقبل وذلك بوحي من الله تبارك وتعالى فكانوا على جانب من الخير عظيم وإن وجد من بعضهم الحرص على المال ولكن على المال الحلال ربما استغنى الناس بعضهم عن البعض ثم تتابع الزمان فلا يأتي زمن إلا وهو شر من الذي قبله إلى يوم القيامة. طيب. Donc il dit le Cheikh, troisième faïda. Dans ce hadith, on a l'exposé de l'état des compagnons. Radiallahu anhum, parmi al-muhajirin et l'ansar. Donc al-muhajirun, les sahaba qui ont émigré de la Mecque vers al-Médina. Ou al-ansaru, les gens de Médine qui ont accueilli les émigrés al-muhajirin parmi leurs frères musulmans. Taïb. Na'am. Donc, cela nous montre le comportement des sahaba qu'ils avaient les uns envers les autres de manière générale, yani parmi les musulmans, mais de manière particulière le comportement qu'ils avaient entre voisins et entre compagnons. Et cela, on l'a vu lorsque les émigrés, les muhajiroun de la Mecque, sont arrivés chez les Ansar, chez les gens de Médine, d'accord? Et lorsqu'ils sont arrivés, les gens de la Mecque, est-ce qu'ils avaient des maisons avec eux? Est-ce qu'ils avaient des biens? Non. Ils ont tout délaissé. Pour Allah Jalla wa Ala. Tout est resté à la Mecque. Donc ils sont arrivés à Médine, ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien. Tayyib. Ils avaient, bien sûr, l'hospitalité des musulmans, des Ansar, qui les ont accueillis de la meilleure des façons. Les Ansar ont donc réagi et ils leur ont donné, Tayyib, des maisons. Ils les ont hébergés, logés, leur ont donné des biens matériels, yani. Et le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, les a fait frères, il les a fraternisés, les uns avec les autres. Ils sont devenus de vrais frères. En Allah Jalla wa Ala. Jusqu'à ce que l'Ansari, la personne de Médine, soit le frère d'un muhajiri, d'un immigré. Jusqu'à ce que aucun d'entre eux ne voyait qu'il était plus en droit de ses biens que son frère. Ça veut dire que pour lui, ce qu'il possède, son frère aussi le possède. Ce qui lui appartient, appartient à son frère. Ce qui lui appartient, appartient à son frère. Jusqu'à ce que il faisait des efforts, yani, pour combler le besoin de son frère avant le sien. Vous voyez? Donc lorsque même lui-même avait des besoins, eh bien, il se souciait d'abord du besoin de son frère avant le sien. Ensuite, après cela, les années et les décennies se sont écoulées et les gens ont commencé à préférer l'argent. Ou plutôt à aimer l'argent. D'accord? Pourquoi? Je dis ça parce que malgré l'amour de ces gens-là, donc à l'époque de Ibn Omar, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc on parle de certains parmi les sahaba, hein, il y en a les plus jeunes parmi les sahaba, et donc des grands parmi les tabi'in. Donc parmi eux, certains aimaient l'argent. Mais il ne faut pas oublier non plus que ce sont l'une des meilleures générations, après celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? La meilleure des générations, c'est ma génération. Ensuite, celle qui la suit. Ensuite, celle qui la suit. Donc, il ne faut pas non plus mésestimer cette génération-là, qui est celle d'Ibn Omar. Ou celle qui est venue après Ibn Omar. Quand le prophète a attesté d'un bien énorme à leur faveur. Et ils ont beaucoup de biens. Vous voyez? Sinon, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'aurait jamais attesté du bien en eux, ou pour eux. Et ce sont nos modèles. Les trois premières générations sont nos salaf salih, nos pieux prédécesseurs. Et le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ait témoigné en leur faveur du bien, fait partie des miracles de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Par rapport au fait que le prophète a témoigné du futur, a témoigné d'une époque, d'une génération qu'il ne connaît pas et qu'il n'a pas connue. Des gens qui vont venir après lui, après sa mort. Donc c'est un des miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une révélation, bien sûr, qu'Allah jalla wa ala lui a donnée. Donc, on comprend par là que ces générations-là étaient sur un bien, mashallah, énorme. Même si, chez certains d'entre eux, on pouvait retrouver cet amour-là pour l'argent, pour le dinar, pour le dirham, pour l'or, pour l'argent. Mais cela dit, l'amour qu'ils avaient pour l'argent était l'amour pour un argent halal. Dans tous les cas, c'était un argent qui est licite. Ne pensez pas que ces gens-là étaient baignés dans l'argent illicite, l'argent sale, comme beaucoup aujourd'hui parmi les musulmans, wal'iyadu billah. Regardez aujourd'hui, certains musulmans sont prêts ou sont presque prêts à tout pour s'enrichir. Mentir, tricher, frauder, les jeux de hasard, les paris, trafic de drogue, fausse attestation, faux témoignage. Certains vont aller même jusqu'à fonder des associations de charité pour soi-disant aller dans les pays pauvres, creuser des puits, construire des écoles pour les orphelins, aider les pauvres en Afrique, en Asie. Et qu'est-ce qu'ils font derrière? Ils volent. Ils les extorquent l'argent des musulmans. Regardez jusqu'où ils vont. Et ces gens-là portent, certains, l'habit de la sunna. La barbe, le qamis, le sirwal. Et il te parle de la salafia. Il te cite les grands savants de l'islam contemporain. Voyez? Donc, on parle pas du tout des mêmes personnes. Là, on parle des meilleures générations de l'islam. Même s'ils aimaient certains, ils aimaient l'argent. Ils n'aimaient que l'argent halal, l'argent propre, l'argent propre. Et certains, yani, travaillaient dur pour gagner de leur vie. Aussi, c'était pour pouvoir se passer des autres et ne pas être dépendant des autres. Ça, c'est noble aussi de leur part. Le musulman qui va travailler dur pour ne pas être dépendant des autres et ne pas demander, ne rien demander aux autres, ça c'est charitable. C'est une intention qui est louable, mashallah. Travailler pour justement être dépendant et pouvoir aussi aider les autres. Taïeb. Donc la volonté de s'enrichir n'est pas en soi quelque chose de condamnable si l'intention elle est bonne. Et si la personne, bien sûr, respecte les droits des pauvres par rapport à la zakat, etc. Donc regardez la différence avec les gens aujourd'hui. Ils s'enrichissent, mais ils ne respectent pas le droit des pauvres. Combien ne versent pas la zakat? Combien sont en retard de la zakat? 3, 4, 5 ans de retard. Ce n'est pas pour se passer des autres. Au contraire, certains continuent à demander des aides aux kuffars pour qu'ils gagnent de l'argent. Ils s'enrichissent, font du travail qui n'est pas déclaré, et à côté ils mentent et ils touchent les aides de l'État. Ou alors ils vont déclarer un petit peu et ils te sortent des fatawa, hein, comme quoi tu aurais le droit de déclarer un petit peu et de mentir, etc., etc., pour pas verser les impôts. Et à côté ils touchent les aides, ils touchent le chômage, le RSA, le ci, le ça. Voilà la différence entre eux et les gens d'aujourd'hui. Hein? Ensuite, les jours et les années et les siècles s'écoulent après eux, bien sûr. Et vous savez qu'il n'y aura pas une époque qui succédera à la précédente sans qu'elle soit pire que la précédente. Sans qu'elle soit pire que la précédente. Wal'iyadu billah, et cela jusqu'à la fin des temps. ثم يقول وتكثر الشرور عبر مرور الأزمنة والأعوام فلا يأتي عام إلا وهو شر من الذي قبله لظهور ما يقع من المعاصي والفتن ومن محبة المال والشهوات والزهد في الخير. Puis il dit, donc encore une fois, le mal s'est accentué au fil du temps, au fil des années, au fil des siècles. Il n'y a pas une année qui succède à la précédente sans qu'elle soit pire que la précédente. En vertu de la propagation, de la multiplication et de la manifestation des péchés et des troubles et du désordre, tels que l'amour de l'argent propre ou sale, quel que soit le moyen, l'amour des shahawat, des péchés et des mauvaises passions, et l'éloignement du bien de façon générale. فالواجب أن الإنسان يتعظ ويتذكر أنه لا ينفعه إذا قدم على الله إلا ما قدمت يداه من كل عمل صالح من الفرائض والواجبات والمستحبات وترك المحرمات والاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى فاللقاء مهما طال العمر فإن لقاء الله قريب وسؤال عن العمل قريب. قال جل وعلا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. قال جل وعلا من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وقال سبحانه وتعالى فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. فالواجب تعاهد النفس وتمرينها على الطاعات ومن ذلك الإحسان إلى المسلمين عموما والأقارب خصوصا وإلى الجار كذلك خصوصا حتى يكون العبد المسلم مؤمنا حقا ومحسنا حقا. في الجي حفظه الله il est obligatoire donc à l'individu qu'il tire des leçons de tous ces hadiths et qu'il se rappelle que lorsque il arrivera devant Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui sera bénéfique sauf ce qu'il a accompli, sauf ce qu'il a accompli et ce qu'il a fait. Parmi toutes les bonnes œuvres obligatoires ou recommandées, parmi le délaissement des muharramat, des interdits, et ce qu'il a fait pour préparer la rencontre avec Allah. Préparer la rencontre avec Allah. Tabaraka wa ta'ala. Donc sache que cette rencontre avec Allah, wallahi, quelle que soit la durée de ton existence, que tu vives, hein, 90 ans, 100 ans, 80 ans, 200 ans, sache que tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et sache que la rencontre avec Allah, elle est proche. Elle est proche, wallahi, elle est proche. Et le jour où on va t'interroger sur ce que tu as fait, ce jour-là, il est proche aussi. Il est proche ou pas? Il est proche. Allah Jalla wa'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le sens rapproché du verset? Celui qui fait une bonne action, c'est pour lui. Celui qui fait une bonne action, c'est pour lui. Et celui qui a fait une mauvaise action, c'est contre lui. Ensuite, c'est vers votre Seigneur que vous serez ramené. Quand tu fais une bonne action, c'est toi qui vas en profiter. Et si elle est mauvaise, eh bien, c'est contre toi. Allah il dit, et celui qui fait une mauvaise action, il en sera rétribué par rapport à elle, et il ne trouvera en dehors d'Allah Jalla wa'ala ni allié, ni secoureur. Il a dit également, celui qui fait une bonne action parmi les bonnes actions, tout en étant croyant, eh bien, فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ. Ça veut dire que, dans le sens du verset, il sera récompensé pour ses efforts. Allah Jalla wa'ala n'oublie pas ce qu'il fait et ce qu'il a fait. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبٌ. Et nous sommes ceux qui écrivent pour lui. Qui écrivent toutes ces bonnes actions-là. Donc il ne sera pas lésé ou victime d'injustice. Il est donc obligatoire d'engager son âme et sa personne et de l'habituer à l'obéissance. Il faut habituer sa personne, son âme, dans les obéissances à Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi elles, la bienfaisance envers les musulmans. Être bienfaisant envers le musulman, subhanallah. De manière générale, mais aussi être bienfaisant envers les proches de manière particulière. Et également envers le voisin, qui est donc un des proches au niveau d'une proximité physique. Une proximité sociale. Jusqu'à ce que le serviteur musulman devienne un vrai croyant. Jusqu'à ce que tu sois un vrai croyant. Jusqu'à ce que tu sois un véritable vertueux. Un véritable bienfaisant. Un véritable salafi. Un véritable croyant. رابعا الترغيب في الإحسان إلى الجار والتحذير من الإساءة إليه وأن من الإساءة إلى الجار أن يكون له حاجة إليك فيذق بابك فتغلق الباب دونه وتمنعه حاجته التي تخدر على قضائها فإذا دق الجار بابك له حاجة فقابله قابله فإن قضى الله الحاجة على يديك فكم لك من الأجر قال الله جل وعلا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وإن تعسر الأمر فكلمة المعروف صدقة وذلك بأن تقدم اعتذارا إليه أو تقدم وعدا وأنت صادق فيه فينقلب وهو مرتاح ومحب لك متوكل على الله جل وعلا وراض Anjari. Quatrièmement, dans ce hadith, on a l'encouragement, on a l'incitation à la bienfaisance envers le voisin, mais on a aussi la menace, on a aussi la mise en garde contre la malfaisance envers le voisin. Et que fait partie de la malfaisance envers le voisin, que lorsque il a besoin de toi, lorsqu'il a besoin de toi, et qu'il frappe à ta porte, eh bien, tu ne lui ouvres pas. Tu lui fermes la porte au nez. et que tu refuses de répondre à son besoin, alors que tu en es capable. Alors que tu peux répondre à sa demande. Est-ce que c'est bien? Donc lorsque le voisin tape à ta porte, réponds-lui. Réponds-lui. Car si Allah Jalla wa Ala comble son besoin par ta cause et grâce à toi, combien de récompenses tu vas recevoir? Énorme. Et dit Allah Jalla wa Ala, wa ahsinu, et soyez bienfaisants, car Allah certes aime les bienfaisants. Tu recevras l'amour d'Allah Jalla wa Ala, qui n'a pas de prix. L'amour d'Allah. Si Allah il t'aime, wallahi, tu as tout gagné. Et si jamais ce qu'il te demande, eh bien, t'es compliqué ou t'es difficile, eh bien, au minimum, dis-lui une bonne parole. Hein? Une simple bonne parole, c'est une bonne action. Fais-lui dua, demande à Allah Jalla wa Ala des choses en sa faveur. Dis-lui une bonne parole. Fais-lui un rappel d'Allah Jalla wa Ala. Un verset, un hadith. Console-le, réconforte-le. Et excuse-toi. Si tu ne peux pas répondre à son besoin, excuse-toi. Ou alors, fais-lui une promesse et dis-lui, je ne peux pas aujourd'hui, mais je vais tout faire pour. Je vais te trouver une solution, mais de manière véridique. Hein? Pas de manière hypocrite. Oui, Inch'Allah. Mais au fond de toi, tu sais que tu vas jamais le faire. Non. Sois sincère et dis-lui, je vais tout faire pour. Je vais essayer. Je vais t'aider. Afin qu'il retourne chez lui en étant apaisé. Et en ayant une opinion favorable sur toi. En ayant de la sympathie, de l'amour pour toi. Qu'il retourne chez lui en plaçant sa confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu lui as fait un bon rappel sur Allah. Et qu'il soit satisfait de son voisin. Wa amma ighlaq al-bab dun al-jar fa la yajuz. Fa qad yaduq al-bab li hajatihi ayyan kana naw'uha mimma yaqdiru 'alayhi banu Adam. فيغلق دونه فهذا لا يتفق مع أخلاق الإسلام التي يدعو إليها وليس من خلق المسلمين بالنسبة لجيرانهم وقراباتهم أن يدقوا الباب في وقت يمكنه أن يقابل المحتاج إليه فلا يقابله ولا يعتذر إليه بل يرده خائبا وهو يستطيع قضاء حاجته ولو بكلمة المعروف ولأهمية الأمر فإن الجار الذي يرد جاره ولا يلتفت إلى طلبه فإنه يخشى عليه أن يحاكمه بين يدي الله ويشكوه ويقول لربه سبحانه وتعالى هذا منعني حقي وأغلق دوني بابه. Puis il dit, donc quand vous fermez le fait de fermer la porte au nez de son voisin, cela n'est pas permis. Il se peut qu'il toque à ta porte pour un besoin. Quel que soit le besoin, parmi les besoins que tu es capable de répondre. Taïd, eh bien malgré ça, on lui ferme la porte. Ceci n'est en aucun cas conforme au comportement de l'islam. À la conduite que l'islam encourage d'avoir. Et cela ne fait pas partie des comportements des musulmans vis-à-vis de leurs voisins, de leurs proches. Le fait qu'ils tapent à ta porte à une heure où était possible de répondre et de combler le besoin de ton voisin et que tu ne répondes pas et que tu ne t'excuses pas, au contraire, tu le rejettes, tu le laisses déçu, alors que tu es dans la capacité de répondre à son besoin, ne serait-ce que, on a dit, une bonne parole. Une bonne parole. Subhanallah. Donc, en vertu de l'importance de la question, le voisin qui rejette son voisin et qui ne regarde pas sa demande, eh bien, on va craindre pour lui, le jour de la résurrection, que ce voisin-là qu'il a rejeté et auquel il a refusé son aide, qu'il le poursuive devant Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il le poursuive devant Allah jalla wa ala et qu'il se plaigne. Vous voyez, aujourd'hui, les gens, ils ont peur d'être poursuivis en justice, d'être appelés au tribunal, d'être jugé par le juge fait dunya, ça c'est sur terre. N'ont-ils pas peur d'être poursuivis devant Allah? N'ont-ils pas peur d'être poursuivis devant Allah subhanahu wa ta'ala? Que son voisin le poursuive devant Allah et se plaigne à Allah jalla wa ala de lui et qu'il dise à son Seigneur, comme il a dit ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein? Celui-là m'a fermé sa porte au nez et il m'a refusé son aide, son bien. Il m'a refusé mon droit sur lui. Il m'a fermé la porte au nez. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous réforme tous, qu'il réforme la umma, qu'il réforme nos comportements au niveau des paroles, des gestes. والله المستعان والله المستعان وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما وبارك الله فيكم والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.